nous sommes tous concernés par l'œuvre de Dieu. Nous pensons à l'œuvre de Dieu. Pour beaucoup d'entre nous, cela fait partie de notre vie depuis des décennies. J'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce qui est vraiment nécessaire pour mener à bien l'œuvre de Dieu? Au fil du temps, en parcourant les pages des Écritures, nous constatons que Dieu a une œuvre, qu'il a suscité des serviteurs pour qu'ils l'accomplissent au fil du temps. J'aimerais vous faire remonter le cours de l'histoire au temps de la fin du royaume de Juda. Josias était le dernier roi juste de Juda. Il fut mortellement blessé lors d'une bataille contre les Égyptiens. Les Babyloniens menaçaient de venir conquérir la région. Il y avait beaucoup d'agitation. Josias mourut, son fils monta sur le trône et il n'y resta que très peu de temps, environ 3 mois. Les Égyptiens le déposèrent et établirent un autre de ses fils comme roi. Il s'écoula du temps entre la mort de Josias et la première invasion des Babyloniens par le roi Nebuchadnezzar. C'était une période relativement courte, d'environ 3 ou 4 ans. Nebuchadnezzar arriva, il assiégea et conquit cette région. Il ajouta Juda à son empire. Lors de sa première conquête, il déporta en particulier les fils des familles dirigeantes. Daniel, d'après le livre de Daniel, faisait partie de cette première déportation. Et Nebuchadnezzar revint encore plusieurs années plus tard. Il n'était pas satisfait de la façon dont les choses se passaient et de la façon dont le roi qui était sur le trône s'acquittait de ses responsabilités vis-à-vis de Babylone. Nebuchadnezzar amena donc le roi Joachim en captivité à Babylone et plaça sur le trône un autre des fils de Josias, Sédécias, qui était en fait l'oncle de Joachim. Il plaça Sédécias sur le trône et cela dura environ 10 ans. Nebuchadnezzar ensuite revint une troisième fois. La deuxième fois, il a également pris et déporté un certain nombre de captifs. Ézéchiel faisait partie de cette deuxième vague. Mais lorsqu'il est revenu la troisième fois, il abattut les murs de la ville, brûla le temple de Salomon, détruisit complètement la ville, et cette fois, des dizaines de milliers de personnes furent amenées en captivité. La population juive diminua fortement. Il restait quelques personnes, essentiellement les pauvres du pays, et ceux des régions rurales. Jérusalem n'était plus qu'une ruine, une épave. Le grand temple que David avait prévu de construire et que Salomon avait construit fut absolument détruit. Des décennies s'écoulèrent, en fait presque 5 décennies s'écoulèrent. Nebuchadnezzar mourut. Nous arrivons à 539 avant Jésus-Christ. Et en 539, Babylone elle-même tomba. Cyrus, le grand roi de Perse, avait assiégé la ville de Babylone. Et à l'automne 539, Babylone tomba. L'empire des Mèdes et des Perses était désormais établi. Peu de temps après, Cyrus, le roi de Perse, a publié un décret. Nous lisons ce décret particulier dans Esdras 1, verset 1. Esdras 1, verset 1. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Et il dit à ceux qui restèrent à Babylone qu'ils pouvaient envoyer de l'argent. Il ne leur ordonna pas de quitter Babylone et de se rendre à Jérusalem, mais il leur donna la permission de le faire. Il leur dit, tous ceux qui veulent monter, tous ceux qui veulent retourner à Jérusalem, qui veulent reconstruire la ville, qui veulent reconstruire le temple, sont libres d'y aller. Et ceux d'entre vous qui veulent rester en arrière peuvent envoyer de l'argent et contribuer à la cause. C'est très intéressant parce que pendant des décennies, les Juifs en captivité à Babylone se lamentaient de la destruction de Jérusalem. Ils déploraient la destruction du temple. Pendant toute cette période, ils avaient volontairement pris sur eux de jeûner le 9e jour du 5e mois, le mois d'Av. Ils lisaient le livre des Lamentations, écrit par Jérémie, et ils se lamentaient sur la destruction de Jérusalem et du Temple. Mais quelque chose d'autre s'était produit pendant qu'ils vivaient cela, en disant, « Oh, l'année prochaine, à Jérusalem, oh, si nous pouvions reconstruire le Temple! » Quelque chose d'autre s'était également produit. Des décennies s'étaient écoulées. En fait, environ 7 décennies s'étaient écoulées depuis la première invasion de Nebuchadnezzar. Environ 5 décennies s'étaient écoulées depuis la destruction du temple. Pendant toutes ces années, les gens eurent des familles. Les enfants grandirent à Babylone, ils se marièrent, et à leur tour, ils eurent des enfants qui, eux aussi, grandirent. Cela représentait donc beaucoup de gens, et certainement de jeunes adultes, qui étaient déjà éloignés de Jérusalem et de Juda depuis 2 générations. Bien qu'ils aient appelé cela la captivité babylonienne, les Juifs étaient installés dans divers villages et villes des environs. Ils étaient libres de faire du commerce. Un certain nombre d'entre eux étaient devenus assez prospères. Il est intéressant de noter que lorsque Cyrus publia son décret, bien que les Juifs avaient prié pour cette opportunité pendant des décennies, lorsque vous parcourez le chapitre 2 d'Esdras, savez-vous combien de Juifs retournèrent en Juda lorsqu'ils furent enfin libres de le faire? Cyrus avait dit, « Quiconque parmi vous veut monter, qu'il monte, qui a le cœur à l'ouvrage. » Eh bien, Esdras 2:64 dit, « L'assemblée tout entière était de 42 360 personnes. » Sur des centaines de milliers de Juifs qui étaient à Babylone, ils rassemblèrent seulement 42 000 personnes qui étaient prêtes à partir. Tout le monde pensait que c'était une bonne idée. Nous devrions reconstruire Jérusalem. Oh, que nous puissions reconstruire Jérusalem! On se lamentait sur la destruction du temple. Mais la réalité est que cela perturbait la vie des gens. Cela signifiait que vous deviez laisser votre entreprise derrière vous. Il fallait partir et se rendre à un endroit où l'on n'était pas allé depuis des décennies. En lisant l'histoire, nous nous apercevons que des personnes âgées y sont allées et qu'un certain nombre d'entre elles se souvenaient du temple de Salomon. Considérant que le temple de Salomon avait été détruit 50 ans plus tôt, ce moment où ils y sont retournés signifiait que pratiquement tous ceux qui se souvenaient du temple de Salomon et de son aspect avaient au moins une 60aine d'années. Des personnes plus âgées retournèrent donc, et d'autres plus jeunes, mais c'était un très petit groupe. Cela nous indique qu'il est parfois plus facile pour des gens de parler de quelque chose. Dans le livre d'Esdras, on constate que sur les 24 classes de sacrificateurs, seulement 4 sont retournés à Jérusalem à cette époque. Zorobabel, de la famille royale de Juda. Il était le petit-fils du roi Jéconias, que Nebuchadnezzar avait amené en captivité en 597, et Zorobabel fut nommé gouverneur par Cyrus, et fut autorisé à conduire la délégation de Juifs pour le retour. Mais lorsqu'ils rassemblèrent tout le monde, c'était une bien petite équipe. Ils revinrent à Jérusalem. Josué, le souverain sacrificateur, était un descendant du dernier souverain sacrificateur qui avait servi là-bas. Et vous pouvez lire dans chapitre 2 d'Esdras, il donne les nombres spécifiques des différents groupes. Mais si l'on fait le total, on arrive à moins de 50 000 personnes qui retournèrent, incluant les serviteurs. Ils arrivèrent, et on nous dit, au chapitre 3 d'Esdras, qu'après leur arrivée, Esdras 3, verset 1, le septième mois arriva, et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Jérusalem, comprenez-le bien, était une ville en ruine. Les murs étaient démolis, la plupart des bâtiments étaient détruits ou brûlés, le temple était brûlé. Jérusalem était une ruine. Sur les moins de 50 000 personnes qui revinrent, seule une poignée s'installa dans les environs de Jérusalem. En fait, ils étaient si peu nombreux que plusieurs décennies plus tard, le gouverneur Néhémie fit des instances pour que 10% de la population vienne peupler Jérusalem. Et il tira au sort et insista pour que des gens viennent de la campagne afin de créer une ville de taille décente. Ce n'était qu'une toute petite ville de quelques milliers d'habitants. Il n'y avait donc pratiquement personne à Jérusalem à cette époque. Ces moins de 50 000 personnes étaient en quelque sorte dispersées dans les villes et les villages environnants. Et le septième mois étant arrivé, c'est bien sûr le mois des fêtes d'automne, le peuple se rassembla comme un seul homme à Jérusalem. Versets 2 à 4, Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, avec ses frères, les sacrificateurs, et Zorobabel, et avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements, quoiqu'ils aient à craindre les peuples du pays. Et ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. Ils célébrèrent la fête des tabernacles. Ensuite, au verset 6, « Dès le premier jour du septième mois, ils commencèrent à offrir à l'Éternel des holocaustes. Cependant, les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. Ils étaient donc revenus, ils étaient tous venus à Jérusalem pour la saison des fêtes d'automne. Ils s'assemblèrent et dressèrent l'autel. » Et le premier jour du septième mois, lors de la fête des trompettes, ils commencèrent à offrir des holocaustes sur l'autel. Le temple n'était pas encore construit. En fait, les fondations n'étaient même pas posées. Il y avait tout simplement un autel consacré. Ensuite, ils rétablirent les sacrifices. Ils célébrèrent les fêtes d'automne et la fête des tabernacles. C'était la première fois qu'ils pouvaient le faire à Jérusalem depuis de nombreuses décennies. On nous dit au verset 3 qu'ils étaient en partie préoccupés par la crainte que leur inspiraient les habitants du pays. Ils étaient bien revenus, mais vous savez, quand Jérusalem tomba, si vous lisez l'histoire, vous verrez qu'il y avait beaucoup de leurs voisins qui se réjouirent de la chute de Jérusalem. Tyr, par exemple, qui était une grande ville commerciale sur la côte, s'était réjoui de la chute de Jérusalem. Ils avaient anticipé les richesses qu'ils pourraient piller et les biens qu'ils pourraient obtenir. Les Édomites, qui se trouvaient à proximité, s'étaient réjouis de la chute de Jérusalem. Il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas regretté le départ des Juifs, et ils n'étaient pas très heureux de les voir revenir. Donc, les Juifs revinrent. Vous savez, il faut voir les choses comme une sorte d'entonnoir. Tout d'abord, vous avez des centaines de milliers de personnes qui parlent de faire revivre l'œuvre. Puis vient le temps de se lever ou de se taire. D'accord, tous ceux qui veulent revenir, allez-y. Mais il n'y eut pas beaucoup de mains qui se levèrent à ce moment-là. À leur retour, ils constatèrent la dévastation de la région qui avait été envahie par la végétation. Vous pouvez imaginer à quel point les fermes étaient dévastées et en ruine, à quel point le territoire était sous-peuplé. Même les animaux sauvages s'étaient multipliés. Les villes et les villages étaient envahis par la végétation, les maisons et les fermes étaient détruites. Jérusalem était l'endroit le plus dévasté, et les habitants furent en quelque sorte dépassés par l'ampleur de ce qui se trouvait devant eux. Et ils furent un peu intimidés par les nations qui les entouraient, les différents peuples qui étaient jaloux, envieux, et qui n'étaient pas très heureux de voir ces gens revenir et revendiquer leurs terres. Ils commencèrent donc à offrir des sacrifices lors de la fête des trompettes de la première année de leur retour. Au verset 8, il est dit, Esdras 3, verset 8, la seconde année depuis leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au second mois, Zorobabel et Josué et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem se mirent à l'œuvre pour les travaux de la maison de l'Éternel. Un certain nombre de mois s'écoulèrent, et nous arrivons au deuxième mois, c'est-à-dire le mois qui suit la Pâque. Zorobabel, Josué, le sacrificateur et les autres avec eux firent des préparatifs et commencèrent à reconstruire le temple. Ils commencèrent ici. Esdras 3, verset 10 dit, « Lorsque les ouvriers posèrent le fondement du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes et les lévites, les fils d'Asaph, afin qu'ils célèbrent l'Éternel. » Ils utilisèrent des psaumes de David et suivirent les ordonnances de David et la manière dont il avait organisé la chorale des Lévites. Esdras 3, 11, ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel. Mais nous constatons qu'il y avait là des personnes plus âgées, en particulier des familles sacerdotales et lévitiques, qui se souvenaient de l'ancien temple, du temple de Salomon. D'un côté, c'était merveilleux de voir le temple commencer à être reconstruit, mais de l'autre côté, c'était pour certains d'entre eux une occasion très triste, car ce qu'ils voyaient allait devenir un bâtiment bien plus petit et bien moins grandiose. Pensez-y, David était le plus riche des rois, car Dieu l'avait béni, lui permettant d'amasser un empire. Le roi Salomon avait été béni par de grandes richesses. Le temple de Salomon représentait ce qu'une nation prospère pouvait faire de mieux. Il représentait ce que le roi David, qui avait donné généreusement, et vous pouvez consulter les détails et regarder tout l'or et toutes les choses que lui et Salomon avaient contribué et ce que le peuple avait contribué. Le temple de Salomon représentait le summum de ce qu'Israël, à son apogée, pouvait faire de mieux. Puis maintenant, vous aviez un peuple appauvri qui revenait de captivité, un peuple qui vivait dans un pays où ils essayaient de construire des fermes et des villes à partir de rien. Et le mieux qu'ils pouvaient faire était très, très inférieur à ce que David et Salomon avaient fait. C'est ainsi qu'en voyant les nouvelles fondations posées, les dimensions et les matériaux rassemblés, certains furent bouleversés et affligés par la comparaison. L'histoire ne s'arrête pas là, pas du tout. Dans Esdras 4, verset 1, Esdras 4, verset 1, les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent, « Nous bâtirons avec vous, car, comme vous, nous invoquons votre Dieu, et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Essar-Adon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. » Il s'agissait des Samaritains qui avaient été introduits dans le pays. Essar-Adon était monté sur le trône environ 40 ans après la chute de Samarie. La déportation des Israélites et l'arrivée de ces autres peuples avaient pris du temps. Mais cela faisait maintenant plusieurs décennies qu'ils étaient là. remarquez leur réaction, et ils ont dit, « Nous servons Dieu comme vous. Nous adorons le même Dieu que vous. » Mais que nous dit-on? Ils étaient des adversaires. C'est ce que Dieu dit d'eux. Dieu dit que ce sont des ennemis, des adversaires. Mais vous savez, un adversaire ne vient pas toujours avec une attaque frontale, n'est-ce pas? Quelqu'un peut être un adversaire, et il ne se proclame pas nécessairement ennemi. Ces gens étaient des adversaires, vinrent et dirent, « Pourquoi? Nous sommes des amis, nous voulons simplement vous aider. » Zorobabel, bien sûr, savait qui ils étaient, et il savait ce qu'ils avaient fait. Vous pouvez revenir en arrière et lire l'histoire dans 2 Rois 17. Je ne m'y reporterai pas pour des questions de temps, mais vous y lisez que les habitants de Samarie étaient essentiellement d'origine babylonienne. Ils avaient été amenés dans les régions dépeuplées du nord d'Israël et s'y étaient installés. Ils avaient apporté avec eux leurs idoles et leurs cultes idolâtres de Babylone et des villes environnantes. Ils ont simplement mis le nom de Dieu sur leurs pratiques. Ils avaient conservé le même vieux paganisme, mais ils l'appelaient du nom de Yahvé, le Dieu d'Israël. Ce n'est pas acceptable. Vous ne pouvez pas adorer Dieu de la façon dont vous décidez de l'adorer. Vous ne pouvez pas regarder les païens et dire, « Eh bien, nous allons prendre leurs idées et les appeler d'un autre nom. Nous ne l'appellerons plus Saturnale, mais Noël. » Et c'est bien ainsi, n'est-ce pas? Non, c'est Dieu qui fixe le standard. Vous et moi sommes appelés à adorer le Créateur en esprit et en vérité. À l'adorer du fond du cœur et à l'adorer selon le modèle qu'il a établi. Zorobabel reconnut donc ces gens pour ce qu'ils étaient. Il leur a dit, « Vous n'avez rien à faire avec nous. Nous allons reconstruire nous-mêmes, comme Cyrus, le roi de Perse, nous l'a demandé. » Quel en fut le résultat? Versets 4 et 5. « Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer leur entreprise. » Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Ils voulaient avoir accès et faire partie de l'effort de reconstruction. S'ils en avaient fait partie, Dieu n'aurait certainement pas béni ce travail parce qu'ils auraient apporté leurs idées païennes corrompues, une sorte de paganisme baptisé. C'est ce qu'ont fait les Samaritains. Ils avaient simplement pris des coutumes et des concepts païens et les avaient en quelque sorte baptisés, en y attachant le nom du Dieu d'Israël. Zorobabel n'acceptait pas cela. Il reconnut ces gens pour ce qu'ils étaient vraiment. C'est alors qu'ils montrèrent leur vrai visage. Ils commencèrent à semer le trouble, et ils affaiblirent les mains du peuple. Ils les découragèrent. Sans doute, ils répandirent des rumeurs, ils firent et dirent différentes choses, et ils engagèrent même des conseillers contre eux et les empêchèrent d'atteindre leur but. Ils engagèrent des avocats et les amenèrent devant les tribunaux et firent traîner les choses pendant des années. Ils portèrent des accusations et semèrent la zizanie. On peut lire certaines des accusations qu'ils envoyèrent à la cour de la Perse. Vous savez, n'importe qui peut accuser n'importe qui de n'importe quoi. Le prouver est une toute autre affaire. Ils n'avaient pas besoin de le prouver. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de semer le trouble, de répandre des rumeurs et de porter des accusations pour causer des difficultés aux Juifs. Quelle fut la conséquence de cela? Verset 24. Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem, et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. Plusieurs années s'écoulèrent. L'œuvre s'arrêta. Ensuite, au chapitre 5, verset 1, Esdras 5, verset 1, Agée le prophète et Zacharie, fils d'Ido le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. Alors Zorobabel et Josué se levèrent et commencèrent, de nouveau, à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem, et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. En gardant cela à l'esprit comme toile de fond, reportons-nous maintenant au livre d'Agée. Agée chapitre 1, verset 1. Agée 1, verset 1, la seconde année du roi Darius, le premier jour du sixième mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agée. Agée 1, 1, reprend donc l'histoire exactement là où nous l'avons laissée au chapitre 5 d'Esdras. Des troubles furent provoqués, les Juifs étaient découragés, les travaux du temple avaient cessé et les gens se dispersèrent. Des années s'écoulèrent. Agé vint ensuite avec un message de la part de Dieu pour Zorobabel et les autres. Dans Agé 1, verset 2, « Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, « Le temps n'est pas venu. » Le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Vous voyez, les gens avaient cessé de faire l'œuvre. Ils avaient maintenant des excuses. Ils disaient, de toute évidence, ce n'est pas le moment de construire le temple, ce n'est pas le moment de faire le travail. Qui trouve des excuses? Ceux-là même qui avaient quitté Babylone et qui étaient revenus. Il n'y avait qu'une poignée de gens qui étaient revenus. Ceux qui avaient eu assez de zèle pour vouloir se déranger, quitter Babylone, venir en Juda et reconstruire. Et ils étaient maintenant rendus, mais vous savez ce qui s'est passé? Ils ont rencontré des difficultés et des problèmes, et le temps s'est étiré, et dura plus longtemps que prévu. Avez-vous déjà remarqué que cela arrive parfois? Des choses se produisent, des choses se mélangent, et tout traîne en longueur. Vous savez, il est important que nous comprenions que vous et moi n'allons pas écrire le scénario, puis le remettre à Dieu et attendre qu'il lise son texte. Ça ne fonctionne pas ainsi. Dieu ne travaille pas de cette façon. Les gens s'attendaient à ce que les choses se passent différemment. Mais il y eut des problèmes, du découragement, de la frustration et des adversaires. Vous savez, Dieu aurait pu frapper les adversaires à mort, mais il a permis à ses adversaires de semer le trouble. Il leur a permis de porter de fausses accusations devant le tribunal perse. Cette affaire traînait depuis des années. Les gens s'étaient découragés. Puis le prophète de Dieu arrive, alors que les années ont passé, et il dit, « Vous savez, Dieu dit, les gens disent, « Eh bien, ce n'est pas encore le moment. » Voici ce qu'Agé leur dit, versets 4 à 6. « Est-ce le temps pour vous, peuple du pays, d'habiter vos demeures lamprissées, quand cette maison est détruite? Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu, vous mangez et vous n'êtes pas rassasié, vous buvez mais vous n'êtes pas désaltéré. Vous savez, vous vous êtes efforcé à reconstruire la prospérité du pays. Mais en essayant de reconstruire la prospérité du pays, vous avez négligé ce qui aurait dû être la première chose à faire avant toute autre chose, c'est de faire l'œuvre de Dieu, de reconstruire la maison de Dieu. Il disait que ce n'était pas le moment de construire la maison de Dieu, mais il pensait certainement qu'il était temps de construire leur maison. Ils n'étaient pas en mesure de faire l'œuvre de Dieu, mais ils pouvaient travailler sur leur maison. Dieu leur a dit, « Avez-vous remarqué que vous n'arrivez pas à avancer? Vous avez beau travailler dur dans les champs, vous n'arrivez jamais à avancer. Vous savez pourquoi? Eh bien, vous n'avez pas appliqué ce qui est peut-être le principe le plus fondamental dans toutes les Écritures. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je pense que l'une des choses les plus simples à démontrer de la Genèse à l'Apocalypse est le fait que personne n'a jamais vraiment progressé en mettant Dieu en dernier. On n'avance pas en mettant Dieu à la dernière place. Avez-vous remarqué que, dans votre journée, si vous essayez de faire toutes vos choses, de faire tout votre travail, et quand tout sera fini, alors vous aurez le temps de vous asseoir, de prier, d'étudier? Que vous êtes en fait à court de journée avant d'être à court de travail? Si vous essayez de payer toutes vos factures et de vous occuper de toutes vos obligations financières, et qu'ensuite vous paierez la dîme et ferez des offrandes à Dieu, ça n'arrive pas? Dieu doit passer en premier. Si vous placez Dieu en premier, tout le reste s'arrange. Si vous commencez votre journée en mettant Dieu en premier, le reste de la journée s'arrange. Vous devez commencer, comme Salomon l'a écrit dans les Proverbes, par honorer Dieu avec les premiers fruits de vos récoltes. Mettez Dieu en premier. Agé leur dit, « Vous trouvez des excuses. Il y a eu des difficultés, des obstacles légitimes qui se sont présentés, mais vous avez trouvé des excuses. Vous avez trouvé le temps de faire vos choses, mais pas les choses de Dieu. » Les versets 7 à 9, versets 7 à 9, ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Pourquoi je ferai cela, dit l'Éternel? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Vous n'avez pas les bonnes priorités. Vous essayez de vous occuper de vous-même. Vous êtes revenu de Babylone pour reconstruire ma maison, pour faire l'œuvre. Mais vous vous êtes laissé décourager et distraire. Vous vous êtes préoccupé de ceci et de cela et de toutes les autres choses. Mettez de l'ordre dans vos priorités. Dieu leur dit ensuite au verset 14 et 15, L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel et l'esprit de Josué, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois de la seconde année du roi Darius. C'était juste avant la fête des trompettes, environ une semaine avant. Puis dans Agé 2, verset 1, le 21e jour du 7e mois, c'est-à-dire à la fin de la fête des tabernacles, verset 1 à 3, parle à Zorobabel, à Josué et au reste du peuple, et dit-leur, « Quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? » Agé pose une question aux septuagénaires et octogénaires qui se souvenaient du premier temple. Il leur dit, « Qu'en pensez-vous en comparaison? » Eh bien, en comparaison, ce n'est rien. Versets 4 à 9. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous, quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors, en anglais le désir, de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. J'aimerais que vous réfléchissiez à cela un instant. Le deuxième temple, celui de Zorobabel, n'avait certainement pas la gloire et la grandeur du temple de Salomon. Mais autre chose lui manquait aussi. Pensez-y un peu. À ce moment, le peuple se prépare à la dédicace. Lorsque vous lisez la Torah au sujet de la dédicace du tabernacle, vous lisez l'Exode, le Lévitique, les Nombres, à propos de la construction du tabernacle et de la dédicace du tabernacle, vous souvenez-vous de ce qui se passa? Un feu jaillit miraculeusement de l'intérieur du Saint des Saints, de l'Arche de l'Alliance, et enflamma le sacrifice qui était sur l'autel. Miraculeusement, le feu de l'autel s'enflamma. Et on nous dit que la gloire de Dieu, sortant du Saint des Saints, remplissait tellement le tabernacle que les sacrificateurs et Moïse lui-même ont dû reculer. C'était absolument extraordinaire, quelque chose de remarquable. Des siècles plus tard, lorsque le temple fut consacré par Salomon, cette fois c'est un feu qui venait du ciel qui consuma l'offrande sur l'autel. Ce grand flot de feu s'est abattu sur l'autel. Le sacrifice entier s'enflamma et la gloire de Dieu remplit le temple de telle sorte que les sacrificateurs ne pouvaient même pas s'approcher pour en faire le service. Absolument extraordinaire! On nous dit que tous les gens tombèrent sur leur visage devant le Seigneur. Vous feriez mieux de croire qu'ils l'ont fait. Ils étaient à moitié morts de peur. Imaginez cette grande colonne de feu descendant du ciel et la gloire de Dieu l'imprégnant, peut-être comme une sorte de vapeur incandescente. La Bible la représente comme un nuage. Et pourtant, il semble que de la lumière émanait de ce nuage, ce qui était absolument terrifiant. C'était effrayant pour les gens présents. Un grand événement miraculeux montra la présence de Dieu dans le tabernacle, et un autre montra la présence de Dieu dans le temple. Si vous parcourez le livre d'Ézéchiel, vous constaterez qu'il écrivit une prophétie 3 ou 4 ans avant la destruction finale de Jérusalem et du temple par Nabuchodonosor et de sa propre déportation à l'époque de la captivité du roi Joachim. Dans une vision, Ézéchiel vit la gloire de Dieu dans le temple. Il vit la gloire de Dieu se lever et s'éloigner du lieu saint pour arriver au seuil de la porte du temple. Puis, il la vit se retirer du seuil du temple et partir du temple. La gloire de Dieu s'était retirée du temple. Et Nabuchodonosor entra dans le temple peu de temps après, le détruisit et le ravagea. Les gens de l'époque de Zorobabel, les gens à qui Agé parlait, étaient familiers avec certaines de ces histoires. Ils les avaient entendues et ils y pensaient. Ils avaient lu ces choses. Et pourtant, lorsque vous lisez l'histoire dans Esdras, Néhémie, Agé et Zacharie, vous constatez que lorsque le deuxième temple fut consacré, il n'y a pas eu de feu miraculeux qui consuma l'offrande. La gloire de Dieu n'a pas rempli le temple. Pouvez-vous imaginer le sentiment de découragement que les gens ont dû ressentir en voyant un bâtiment beaucoup moins grandiose, beaucoup plus petit, beaucoup moins impressionnant? Et en plus, sans grandes effusions miraculeuses démontrant la présence de Dieu. En fait, dans le second temple, le Saint des Saints était vide. Il n'y avait pas d'arche de l'Alliance. Ce n'était qu'une pièce vide. Et Agé leur dit, au verset 6, « Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et la terre ferme. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors ou les désirs de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison. » Et je remplirai ce temple de gloire. Je veux remplir de gloire cette maison que nous sommes en train de consacrer. Je vais remplir cette maison de gloire. Et la gloire de cette maison sera plus grande que la gloire de la précédente. Elle éclipsera la gloire du temple de Salomon. Vous savez, quelque chose de bien plus grand. Quelque chose de bien plus grand qu'une colonne de feu qui descend du ciel ou de la gloire de Dieu dans un nuage. Gardez votre place ici et reportons-nous à Jean 1, le premier chapitre de Jean. Jean 1 commence bien sûr par Jean 1, versets 1 à 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Ensuite, au verset 14, il est dit, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Ce n'est pas simplement la gloire de Dieu qui est entrée dans le second temple, c'est la parole, celui qui était au commencement avec Dieu, qui était Dieu, celui par qui les cieux et la terre sont venus à l'existence, celui qui a parlé, et la mer et la terre sèche se séparèrent, celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut, celui qui a insufflé le souffle de vie à Adam, le premier homme, la parole qui était avec Dieu et qui était Dieu. Verset 14, « Et la parole était faite chair, et elle a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Jésus a dit que les Juifs honoraient le temple, mais qu'un plus grand que le temple était présent. Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu avec nous, la parole qui s'est faite chair, sa gloire. Vous voyez le temple, ce deuxième temple, oui, embelli par Hérode, mais ce second temple, c'était l'accomplissement d'Agée 2. Je vais remplir cette maison de gloire, et la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la gloire de la première. Parce que Jésus-Christ, la parole, Dieu dans la chair, c'est ici qu'il viendra, il enseignera et il fera des miracles. Et il dit, « En ce lieu, je donnerai la paix. » Eh bien, qu'a prêché Jésus-Christ? Il nous est dit dans Acte 10, verset 36, Acte 10, verset 36, il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché? Après le baptême prêché par Jean, Jésus-Christ est venu proclamer l'Évangile du royaume de Dieu, le seul chemin vers la paix. Voici donc Agée qui oriente le peuple vers quelque chose. Vivez-vous votre vie en fonction de ce que vous voyez avec vos yeux? Ou marchez-vous par la foi? Ils étaient découragés, ils avaient reculé parce qu'ils voyaient des difficultés. Ce qu'ils ont vu, c'est que les choses prenaient plus de temps qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Ce qu'ils voyaient leur paraissait terriblement petit et insignifiant par rapport à ce dont ils se souvenaient. Et ce dont ils se souvenaient n'était pas Israël à son apogée, mais ce dont ils se souvenaient était tout de même bien plus grand que ce qu'ils voyaient. Maintenant, poursuivons un peu plus loin. Allons au livre de Zacharie. Si vous remarquez bien, Agée 1.1 commence en disant Agée 1.1, la seconde année du roi Darius, le premier jour du sixième mois. Zacharie 1.1 commence par Zacharie 1.1, le huitième mois de la seconde année de Darius. Zacharie et Agée sont donc contemporains. Zacharie commença à écrire 2 mois après Agée. Zacharie renforça le message donné par Agée. Et dans Zacharie 1, verset 3, il nous dit, Zacharie 1, verset 3, « Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées, revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous. Revenez à moi, et je reviendrai à vous. » Verset 4, « Ne soyez pas comme vos pères auxquels s'adressèrent les premiers prophètes. N'agissez pas comme eux. » Si vous allez au verset 7, vous verrez que nous reprenons l'histoire peu de temps après, environ 3 mois plus tard. Verset 7, le 24e jour du 11e mois de la seconde année de Darius. Maintenant, Agée avait fait une déclaration au moment de la fête des tabernacles dans Agée 2, verset 6 et 7. Agée 2, verset 6 et 7. Encore un peu de temps et j'ébranlerai les cieux et la terre. La mer et le sec, j'ébranlerai toutes les nations, avec ceci comme toile de fond. Nous sommes peu de temps après la fête des tabernacles, environ 4 mois après qu'Agée ait prononcé ces paroles, Zacharie prophétise et il a une vision décrite au chapitre 1, verset 8. Il voit un homme assis sur un cheval roux. Il se tient au milieu des myrtes qui se trouvent dans un lieu ombragé et il voit plusieurs chevaux. En fait, en regardant, on s'aperçoit qu'il y a quatre chevaux qui sont mentionnés ici. Verset 9, Zacharie dit, Zacharie 1, verset 9, « Qui sont ces chevaux, mon Seigneur? » Il regarde dans le lieu ombragé, il voit ces quatre chevaux, il est un peu perplexe. Il sait que cela symbolise quelque chose, mais il ne sait pas quoi. Là, je lui dis, « Viens, je te montrerai. » Verset 10, l'homme qui se tenait parmi les myrtes prit la parole et dit, « Tu regardes ces quatre chevaux, eh bien, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Ce sont les messagers de Dieu, et ils vont et viennent. » Verset 11, ils s'adressèrent à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes, et ils dirent, « Nous avons parcouru la terre, et voici, toute la terre est en repos et tranquille. » Tout est plutôt tranquille. Verset 12, alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, « Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda, contre lesquelles tu es hérité depuis 70 ans? » Agée avait dit environ 4 mois plus tôt, « Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux de la terre, la mer et la terre ferme. Je secourrai toutes les nations. Le désir de toutes les nations viendra. » Mais 4 mois plus tard, Zacharie a une vision. Il voit ses messagers angéliques qui disent, « Nous sommes allés partout, dans tous les coins. » Quel était le message? Ils dirent, « Tout est calme. » Tout était calme sur le front occidental, sur le front oriental, septentrional, méridional. 4 mois s'étaient écoulés et Dieu n'avait pas ébranlé toutes les nations. En fait, les choses semblaient plutôt calmes. Tout semblait être au beau fixe. Même l'ange dit au Seigneur, « Combien de temps les choses vont-elles continuer ainsi? Combien de temps faudra-t-il encore avant que tu ne rétablisses vraiment la situation? » Il faut réaliser qu'alors que le temple prenait forme, la ville de Jérusalem était encore délabrée, les murailles étaient encore démolies. Il n'y avait que quelques centaines, peut-être tout au plus quelques milliers d'habitants clairsemés dans la ville. Plus tard, Néhémie dut insister pour amener plusieurs milliers de personnes à Jérusalem afin d'accroître la population de la ville. Ce qu'il vit, c'est que la terre était en repos. Combien de temps? Verset 14 de la version Osterval, verset 14, « Et l'ange qui me parlait me dit, « Crie et dis, ainsi a dit l'Éternel des armées, je suis jaloux pour Jérusalem, pour Sion. » C'est une grande jalousie, et je suis courroucé d'un grand courroux contre ces nations tranquilles. Elles sont tranquilles, sont toutes à l'aise, bien installées, la vie continue, elles sont heureuses. Et verset 16, « Je reviens à Jérusalem avec compassion, ma maison y sera rebâtie, et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. » Verset 17, « L'Éternel consolera encore Sion, et choisira encore Jérusalem. » Ensuite, au chapitre 2, verset 4, l'ange dit à Zacharie, au verset 4 de Zacharie 2, « Cours, parle à ce jeune homme, et dis, Jérusalem sera une ville ouverte, sans murailles, à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour. » Maintenant, versets 11 et 12, versets 11 et 12, « Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. » J'habiterai au milieu de toi, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. L'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte, et il choisira encore Jérusalem. Le fait est qu'Agée et Zacharie ont prêché un message de foi. Sur la base de ce que vous pouviez voir, il n'y avait aucune raison de conclure que l'une ou l'autre de ces choses allait se produire. Ce que l'on voyait, c'est une ville dévastée, dont les murs étaient détruits. Il n'y avait que quelques rares habitants éparpillés et peut-être quelques maisons qui avaient été un peu réparées. Zacharie dit, « Vous savez quoi? Le temps va venir où cette ville sera tellement remplie de gens qu'ils se répandront au-delà des murs. Les murs ne pourront même pas contenir les gens. Elle sera habitée comme une ville sans muraille à cause de la multitude des hommes et du bétail. Elle grouillera de population et Dieu la protégera. Mais à ce moment-là, même s'ils avaient été autorisés à reconstruire le temple, ils faisaient toujours partie de l'Empire perse. Ils étaient intimidés par certains des peuples voisins. Et pourtant, le message des prophètes se prolongeait au-delà de ce jour, au-delà de cette époque. Oui, les choses sont peut-être calmes en ce moment, mais je vais ébranler toutes les nations. Jésus-Christ est venu. Quand Dieu dit « encore un peu de temps », comment définir un peu de temps? Eh bien, selon ce contexte, Dieu l'a défini comme étant la moitié d'un millénaire. Ce n'est que 500 ans plus tard que Jésus-Christ viendrait. Un fait intéressant en passant, concernant la venue du Messie, c'est que le temple, le deuxième temple, fut détruit par les Romains en 70 après Jésus-Christ. AG2 est une preuve que le Messie devait venir avant la destruction du second temple. Car AG dit, « Je remplirai de gloire cette maison, et la gloire de cette maison sera plus grande que la gloire de la première. » Et la seule façon que cela puisse se produire était que Jésus-Christ, Fils de Dieu, entre dans ce temple. Il est intéressant de lire l'histoire dans l'Évangile de Jean. Jean commence par souligner que la parole s'est faite chair et qu'elle a habité parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire. Ensuite, au chapitre 2, on trouve le tout début du ministère de Jésus. Il fut baptisé par Jean le Baptiste à l'automne. Il alla dans le désert, jeûna 40 jours, choisit ses disciples, et par la suite, il vint à Jérusalem, juste avant la Pâque de l'an 28 après Jésus-Christ. Et comment est-il arrivé? Eh bien, si vous lisez l'histoire au chapitre 2 de Jean, vous verrez qu'il accomplissait la prophétie de Malachie. Dans Malachie 3, verset 2, « Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il entra dans le temple de Jérusalem et en fit le ménage. Il renversa les tables des changeurs. Il chassa les changeurs et les animaux. » Fait intéressant de l'histoire est que l'endroit où s'étaient installés les vendeurs était dans le parvis extérieur du temple, qui était désigné comme la cour des gentils. Il y avait tant de bœufs qui mugissaient, de moutons et de chèvres qui bêlaient, de colombes qui roucoulaient et battaient des ailes, on ne pouvait pas s'entendre penser. Alors, où les païens étaient-ils censés prier? Le seul endroit du temple où il pouvait se rendre était la cour des gentils. Le Christ dit, « Il est écrit, ma maison est une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Et cela, bien sûr, se référait spécifiquement à cette zone du temple. « Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations. » Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Vous voyez, ils étaient si stricts, si religieux, qu'ils ne pouvaient pas permettre que de l'argent portant des insignes et des inscriptions païennes soit versé dans le trésor du temple. Vous entriez dans le temple pour acheter un animal à sacrifier. On vous disait, « Oh non, nous ne pouvons pas prendre cet argent. Pourquoi? Parce qu'il a l'image d'un roi païen, une inscription païenne. Nous avons donc ici un changeur de monnaie. Mettez votre vieil argent païen dans cette boîte et nous vous donnerons du bon argent, de l'argent juste. » Nous vous donnerons un cycle du temple. Il va sans dire que le cycle du temple contenait beaucoup moins d'argent que le cycle païen. Il faut donc se demander qui était vraiment le païen. C'est ainsi qu'il trompait les gens. La première chose que vous deviez faire en arrivant à Jérusalem était de changer votre argent. Il vous donnait donc un cycle du temple. Ensuite, il fallait payer leur prix pour l'agneau ou le chevreau. Parce que, souvenez-vous, le sacrifice devait être sans tâche et sans défaut. Qui décidait s'il était sans tâche et sans défaut? Eh bien, les sacrificateurs. C'est donc d'eux que vous achetiez votre chevreau, et vous étiez alors certain qu'il serait accepté. Si vous l'aviez acheté chez Pierre de la ferme à chevaux à bas prix en bas de la rue, Si vous regardiez assez longtemps et assez fort, vous auriez probablement pu trouver quelque chose qui n'allait pas avec cet animal. Quel genre d'attitude pensez-vous que les gens devaient avoir en entrant là? Quel découragement et frustration! Ils savaient qu'on profitait d'eux, et pourtant c'était la maison de Dieu. Il n'était pas étonnant que Jésus-Christ fût absolument furieux. Il jeta tout cela à la poubelle et fit le ménage. Puis il commença à faire des miracles dans la cour du temple. À tel point qu'en lisant l'histoire qui se poursuit dans Jean 3, on voit que Nicodème, un chef des Juifs, membre du Sanhédrin, vint trouver Jésus en privé, de nuit, pendant les jours des pains sans levain, et lui dit, « Rabbi, nous, les membres du Sanhédrin et les chefs des Juifs, nous savons que tu es un maître envoyé par Dieu. Nul ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Agib a dit, « Dans peu de temps, je vais ébranler les cieux de la terre, je vais ébranler toutes les nations, et je vais remplir cette maison de gloire, et la gloire de cette maison sera plus grande que la gloire de la première. De cette maison, je donnerai la paix. » Jésus-Christ, Dieu dans la chair, est entré dans cette maison. Il l'a nettoyé, il a fait des miracles, il a proclamé l'évangile du royaume de Dieu. Ce que les gens faisaient à l'époque de Zorobabel, c'était de préparer le chemin pour la venue du Messie. Que fallait-il pour accomplir l'œuvre de Dieu? Eh bien, pour commencer, il fallait avoir un désir et un dévouement, car seuls ceux qui avaient un désir et un dévouement ont quitté Babylone. Mais avoir un désir pour faire l'œuvre de Dieu n'est pas suffisant. Car que se passe-t-il lorsque vous rencontrez des difficultés, des obstacles, de l'adversité? Que se passe-t-il lorsque les choses traînent plus longtemps que vous ne l'auriez jamais imaginé? Que se passe-t-il quand il y a des problèmes? Et vous savez, il y a deux sortes de problèmes. En parcourant les Écritures, on s'aperçoit que Satan a deux tactiques principales pour s'attaquer à l'œuvre de Dieu. Parfois, il le fait de l'extérieur, parfois, il le fait de l'intérieur. C'est ce que l'on retrouve tout au long de l'histoire. Parfois, il s'agit d'une attaque frontale visant à intimider le peuple de Dieu, à l'effrayer pour qu'il recule. Si cela ne fonctionne pas, alors vous trouvez des problèmes à l'intérieur, des adversaires et des gens découragés. Vous trouvez toutes sortes de difficultés et des choses commencent à arriver. On nous dit que la main du peuple était affaiblie. Ceux dont la main était affaiblie étaient pourtant ceux qui avaient eu le désir de revenir de Babylone. C'était eux qui avaient eu le désir de reconstruire le temple, mais leur main était affaiblie. Ils se sont découragés. Ils ont été frustrés. Ils se sont repliés sur eux-mêmes. Ils ont construit leur maison. Ils ont pris soin d'eux-mêmes. Ils se sont concentrés sur les autres choses. Avez-vous déjà remarqué comme il est facile de devenir égocentrique, il est facile de se préoccuper de soi, de se concentrer sur soi? C'est ainsi que l'œuvre fut détournée. Il faut un désir, mais le désir seul ne suffit pas. Agée et Zacharie sont arrivés et ont donné au peuple une vision. Agée et Zacharie ont dit, « Vous voyez? Vous voyez ce qui vous entoure? Maintenant, laissez-moi vous dire ce que Dieu va faire. Ce que vous voyez est assez insignifiant, c'est petit, mais je vous dis que le temps viendra où la gloire de cette dernière maison dépassera la gloire de la première. Je vais remplir cette maison avec gloire. » C'est une vision. Il voyait plus loin dans le temps. Dans Hébreux 11, où vous lisez l'histoire d'hommes et de femmes de foi, vous lisez au sujet d'individus qui ont vu ce que les autres ne voyaient pas. C'est ce qu'implique la foi. Ils ont vu de loin les promesses et ils en furent convaincus. Ils confessèrent qu'ils étaient étrangers et des pèlerins. Ils l'ont vu de loin. Ils l'ont saisi. Ils étaient convaincus. Ils ont embrassé ces promesses. On nous dit d'Abraham qu'il cherchait une ville avec des fondations dont l'architecte et le constructeur est Dieu. Abraham cherchait quelque chose. Les hommes et les femmes de la foi ont vu des promesses de loin. Dans Hébreux 11, il nous est dit de Moïse que lorsqu'il arriva à maturité, il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il avait le titre de prince d'Égypte, mais il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, préférant souffrir l'affliction avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir des plaisirs du péché pour un temps. Moïse ne fut pas intimidé par Pharaon, car il voyait le Dieu invisible. Il persévéra parce qu'il voyait celui qui est invisible. La vision mène tout droit à la foi. On ne peut pas avoir la foi si on n'a pas de vision. Tout d'abord, on doit avoir le désir de faire l'œuvre. Mais si vous n'avez qu'un désir, vous serez découragé par les problèmes, les difficultés de l'intérieur et de l'extérieur. Satan veillera toujours à ce qu'il y ait des choses décourageantes qui abondent. Vous pouvez le garantir. Il ne suffit donc pas seulement d'avoir le désir. Oui, il faut avoir un désir, car sinon vous ne quitterez jamais Babylone. Vous savez, lorsque nous regardons le peuple de Dieu aujourd'hui et que nous pensons à tous ceux qui ont quitté Babylone spirituellement, vous pensez à l'ampleur et à la portée de l'œuvre sous M. Armstrong. Quand vous la comparez aux églises du monde, c'était minuscule. Mais quand vous regardez l'ampleur, les millions de téléspectateurs et de lecteurs de la vérité de Dieu, il y a eu un impact très significatif. Mais cette ancienne maison a été laissée à l'abandon, tout autant que les ruines brûlées du temple. Maintenant, il y a des adversaires et des difficultés. Et je vous garantis que jusqu'à la fin, il y aura des adversaires et des difficultés. En plus du désir, il faut avoir la vision. Vous devez voir ce que Dieu voit. Et non seulement vous avez besoin de la vision pour le voir, mais vous devez aussi avoir la foi pour le croire, car la foi engendre le courage. Si vous voyez vraiment Dieu et que vous croyez en lui, vous aurez le courage d'aller de l'avant, quelle que soit l'adversité. Peu importe que les habitants du pays essaient d'affaiblir les mains de ceux qui construisent. Peu importe que les rois disent « Arrêtons cette œuvre pour le moment. » Dieu réveilla l'esprit de ceux qui commencèrent à saisir la vision. Ils n'ont pas seulement vu le bâtiment. Ils ont vu ce que Dieu allait faire. Agée et Zacharie leur dirent « Regardez ce que Dieu va faire. Je sais que tout ce que vous voyez autour de vous contredit cela. » Mais Dieu dit qu'il ébranlera les nations. Même les messagers angéliques devaient admettre que tout était plutôt calme, plutôt tranquille à ce moment-là. Rien n'était ébranlé. Cela n'a pas d'importance. Ce que vous voyez en ce moment est loin d'être aussi important que ce que Dieu dit qu'il arrivera. Parce que lorsque le temps de Dieu arrive, les choses se mettent en place d'une manière incroyable. Il faut un désir, il faut de la vision, il faut de la foi. Permettez-moi de vous montrer quelque chose d'autre. Revenons à 1 Chronique 29. 1 Chronique 29. Le roi David était à la fin de sa vie. Il avait réuni une assemblée et il présentait le roi Salomon devant de nombreux chefs. Et il parlait de la construction du temple. David dit dans 1 Chronique 29, verset 2, « J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu. » Verset 3, « De plus, dans mon attachement pour la maison de Dieu. » Vous vous souvenez de l'histoire, David voulait construire la maison de Dieu, mais à l'époque d'Agée, le peuple voulait construire leur propre maison et la maison de Dieu était en désuétude. David parla au prophète Nathan et il dit, « Écoute, je ne me sens pas bien. Je vis dans une belle maison et l'arche de Dieu est dans une tente. J'ai l'impression que c'est à l'envers. J'aimerais vraiment construire une maison pour Dieu, quelque chose de bien plus glorieux que ce que j'habite. » Nathan pensait que c'était une bonne idée, et il dit à David, « Je suis sûr que Dieu apprécierait cela. » Puis, qu'arrive-t-il? Nathan n'avait même pas encore franchi les portes du palais que Dieu lui dit, « Nathan, tu ne m'as pas consulté avant de parler à David tout à l'heure. Tu dois retourner et lui dire que j'apprécie son désir de me construire une maison, mais que je ne le laisserai pas construire. C'est son fils qui le fera. » Vous est-il déjà arrivé de vouloir faire quelque chose de tout cœur et de vous apercevoir que vous ne pourriez pas le faire? La tendance naturelle de l'être humain est d'être déçu. Certaines personnes deviennent même amères ou rancunières parce qu'elles n'obtiennent pas ce qu'elles veulent. Savez-vous quelle fut la réaction de David? Il fut certainement déçu, car il disait y avoir mis toute son affection. Il était emballé à ce sujet. Mais la réponse de David fut, « Si je ne peux pas construire, puis-je aider aux préparatifs? Si je ne peux pas construire, ce n'est pas grave, mais est-ce que je peux aider? Puis-je faire quelque chose? » Et Dieu, par l'intermédiaire de Nathan, lui dit, « Absolument, tu peux aider. » David est un homme selon le cœur de Dieu. Il ne s'est pas laissé distraire parce qu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait, parce qu'il était déçu. David avait à cœur de construire le temple. Il y mettait toute son affection. Et si Dieu disait, « Non, je ne te laisserai pas faire cela », David dit, « Eh bien, qu'est-ce que je peux faire? J'aimerais contribuer. J'aimerais donner tout ce que tu peux me permettre de donner. » Et Dieu lui dit, « C'est très bien. En fait, je te laisserai préparer les plans. Je te laisserai faire tout le travail de base, mais je ne te laisserai pas construire. » Remarquez donc l'attitude de David à la fin de sa vie. Il fait ce que Dieu lui a permis de faire. Le verset 9 nous dit que le peuple répondit à l'attitude de David et qu'ils donnèrent volontairement. Verset 10, « David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne. » Remarquez l'attitude de David, verset 14. « Car qui suis-je et qui est mon peuple que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » David était reconnaissant d'avoir le privilège de donner. Quel contraste avec ceux qui donnent à contre-cœur! Vous parlez d'un donateur joyeux. En lisant 1 Chronique 29, vous comprenez en partie pourquoi David est un homme selon le cœur de Dieu. David aimait Dieu, et il aimait les choses de Dieu. David remercia Dieu pour le privilège de pouvoir donner. Il a dit, « Seigneur, tout ce que j'ai, c'est toi qui me l'as donné. Ce n'est pas comme si je te donnais quelque chose dont tu as besoin. Mais je suis tellement reconnaissant de pouvoir contribuer, de pouvoir donner. » C'était une joie. Comme vous le voyez dans les Écritures, ce qui est nécessaire n'est pas seulement un désir de faire l'œuvre, mais aussi une vision pour voir ce que Dieu a prévu, la foi pour y croire et une attitude de reconnaissance et d'appréciation. Reconnaître que de faire partie de l'œuvre de Dieu est un privilège merveilleux pour lequel nous devrions continuellement remercier Dieu. Frères et sœurs, je veux vous dire quelque chose. Encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Il viendra vraiment. Dieu va ébranler toutes les nations, il va ébranler les cieux et la terre. Et vous savez quoi? Il remplira cette maison de gloire. Dans Joël, au chapitre 2, il nous est dit que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit. Puis il parle du jeune homme, du vieillard, de la jeune femme et de la femme âgée. Je répandrai mon esprit avant l'arrivée du jour du Seigneur. De ce jour grand et redoutable, Pierre cita une partie de cette phrase dans Actes 2 et l'appliqua au jour de la Pentecôte, au déversement du Saint-Esprit de Dieu et aux événements miraculeux qui se sont produits par la suite, mais il s'agissait d'un type, d'une préparation à la seconde venue de Christ. Mais ce sera selon le calendrier de Dieu. Vous et moi allons être confrontés à des problèmes et à ceux qui cherchent à affaiblir nos mains. Satan suscitera des adversaires. Nous avons vu ces choses et nous les verrons encore. Mais si nous conservons non seulement le désir de faire l'œuvre, mais aussi la vision de ce que Dieu fait et de ce qu'il fera, et la foi de le croire, cela nous permettra de persévérer et d'être reconnaissant du privilège de faire partie de l'œuvre. Car si nous considérons toujours cela comme un privilège, et si nous sommes continuellement reconnaissants à Dieu comme David l'était, nous ne nous en détacherons jamais, nous ne perdrons jamais la vision. Aucune déception ne nous dissuadera jamais, parce que nous reconnaîtrons et saurons que celui qui doit venir viendra, et il viendra vraiment. Vous et moi avons été choisis pour avoir le privilège inestimable de participer à l'œuvre de Dieu, en préparant le chemin pour le retour de Jésus-Christ et pour le début du royaume de Dieu.